première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1er, à partir du verset 17. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Paul ne dit pas que la croix a été pour nous une folie, mais elle demeure toujours pour nous qui sommes sauvés. Et je crois, mes frères et sœurs, que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens et lorsqu'il écrit aux autres églises, ne se lassera pas d'annoncer la croix, d'annoncer l'évangile simple de Jésus-Christ. Une autre version traduit ce même passage, la version parole vivante, la traduit de la manière suivante. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Combien d'hommes et combien de femmes ont tourné la croix en dérision? Déjà du temps de Jésus, alors qu'il était cloué sur le bois, alors qu'il y a 21 siècles, il portait déjà nos souffrances. Les hommes disaient, « Toi qui as guéri tant de gens, descends. » Si c'était le Fils de Dieu, alors, il se sauverait lui-même. Cela paraissait être une aberration, d'autant plus que dans la culture hébreu, celui qui était pendu au bois était considéré comme maudit. C'était quelque chose d'absurde, c'était une folie. Encore au XXIe siècle, celui qui gagne, celui qui est vainqueur, c'est celui qui reste debout. Mais la grâce nous apprend qu'en Jésus, le véritable vainqueur, c'est parfois celui qui arrive à s'abaisser, à plier le genou, à tendre la joue droite, alors lorsqu'on l'a frappé sur la gauche, à faire 1 000, en faire 2 000 alors qu'il n'a vocation à n'en faire qu'un seul. C'est une folie. Et je suis heureux de prêcher une folie. Parce que cette folie, elle m'a changé. Parce que cette folie, elle m'a transformé. Parce que cette folie, elle nous a transformé. Elle a fait de nous des enfants de Dieu. Oui, aux yeux des hommes, c'est une folie. Mais lorsque l'on a compris cette folie de manière spirituelle, alors elle devient une sagesse profonde. Alors elle devient une réalité profonde. D'autres termes sont utilisés dans l'Écriture pour qualifier la prédication de la croix. Le premier terme qui est utilisé, on le trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 16 et au verset 25, lorsque Paul dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » La prédication de la croix, elle est avant tout fondée sur Jésus-Christ. Souvent, on me demande, mais comment peut-on savoir si telle ou telle église est bonne, etc., si tel ou tel pasteur correspond et est dans la doctrine, notamment nos amis africains? Tout simplement, est-ce qu'il prêche Jésus? Est-ce que Jésus est pour lui une fin? Ou alors est-ce que Jésus est tout simplement un moyen? Et je crois que dans notre vie chrétienne, je crois que dans la manière dont on lit notre Bible, dans la manière dont nous l'écoutons, dont nous écoutons les prédications, Jésus doit toujours ressortir. Notre foi est centrée vers Jésus. Cette folie qui nous a changés, qui nous a transformés, est centrée sur Jésus. Comme je le disais en introduction au culte, ici nous sommes rassemblés, nous sommes la base, mais nos yeux sont fixés sur la pointe qui est Jésus. Ne pas annoncer autre chose que Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui baptise de l'Esprit et Jésus qui revient bientôt. Oui, c'est une folie. C'est une folie parce qu'on ne le comprend pas avec la tête. Comment comprendre qu'un vainqueur puisse être cloué sur le bois de la croix? Mais c'est le Saint-Esprit qui atteste à nos cœurs que nous sommes pécheurs, mais que nous pouvons être pardonnés en Jésus-Christ. L'apôtre Paul qualifiera la prédication dans notre terme lorsqu'il écrit aux Galates au chapitre 3 et au verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» La prédication de la croix, c'est une folie, elle est centrée sur Jésus, mais c'est avant tout également une question de foi. Je crois. Et j'aime beaucoup ce texte des Évangiles qui dit que le royaume de Dieu est réservé à ceux qui ont un cœur d'enfant, à ceux qui ressemblent à des enfants. Comme je le disais jeudi après-midi, un enfant, ça croit. Un enfant, vous lui donnez un bonbon, il va le prendre et il va le manger. Nous, on nous tend un bonbon, la première chose qu'on se demande, c'est « Pourquoi est-ce qu'il me donne un bonbon, lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il va attendre en retour ? Je suis sûr qu'il va me demander quelque chose derrière. Je suis sûr que... Et ensuite, je vais être obligé de lui en donner deux. » On est comme ça, non ? Mais un enfant, il prend le bonbon, et combien d'hommes et combien de femmes, finalement, ont refusé le salut de la grâce parce qu'ils se sont demandé ce que Jésus allait leur demander derrière ? Mon frère, ma sœur, mon ami, vis la croix pleinement, entièrement. Derrière, comme nous le verrons, s'il y a des moins, il y aura également des plus. Lorsque Dieu ôte d'une vie, il rajoute dans la même vie. Ne te demande pas ce que va te coûter le sacrifice. Ne te demande pas ce que va te coûter le salut en Jésus. Ne te demande pas quelles vont être les conséquences. Crois, tout simplement. Prends le salut qui est étendu. C'est une folie qui est centrée sur Jésus, qui est une question de foi. Je n'ai juste qu'à croire. Je n'ai juste qu'à croire. C'est une prédication qui est positive. Parce qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Philippiens chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile. Ça signifie bonne nouvelle. Moi, j'aime prêcher la bonne nouvelle, j'aime prêcher l'Évangile, parce que j'annonce une bonne nouvelle. Vous imaginez ? Si jamais vous veniez le dimanche matin et que je vous parlais des catastrophes qu'il y a dans le monde, des catastrophes qu'il y a dans vos familles. Mais non, ce serait une catastrophe, au sens propre, cette fois-là. Mais derrière tout ça, nous savons qu'il y a un but. C'est positif, l'Évangile. C'est positif parce que ça nous change, parce que ça nous transforme, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait sortir de notre morosité. Mais pour que cette prédication ait lieu, il a fallu qu'il y ait un spectacle terrible, celui de Golgotha. Le prophète Ésaïe nous fait une description prophétique de ce que sera le sacrifice de l'agneau de Dieu. Ésaïe chapitre 52, verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. 53:3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pour ceux qui ont vu le film La Passion du Christ, je l'ai regardé à titre personnel, et ça m'a profondément bouleversé, parce que dans mon esprit, je ne pensais pas qu'une crucifixion puisse être aussi douloureuse. On l'imagine toujours de manière un petit peu fleur bleue. Oui, Jésus a souffert. Oui, les clous se sont plantés dans ses mains. Oui, la couronne d'épines a été posée sur sa tête. Oui. C'est bien au-delà de ça. Et la question que j'aimerais me poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi celui qui était parfait, qui n'avait commis aucun péché, acceptait de mourir sur le bois de la croix ? Romains 5:8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Corinthiens 15:3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour les péchés de ceux qui le crucifiaient uniquement. Il n'est pas mort pour ceux qui vivaient de son temps. Mais il est mort pour nous au XXIe siècle. Vous savez, même si nous n'y étions pas, nous faisions partie dans le cœur de Dieu de cette foule qui criait « Crucifie, crucifie, crucifie. Crucifie, crucifie, crucifie. La prédication de la croix est une des choses extraordinaires parce qu'elle revêt des dimensions tout à fait spirituelles. Et après cette courte introduction, j'aimerais que l'on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec cette simple question. Pourquoi la croix ? Pourquoi la croix ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi? Pourquoi a-t-il fait ainsi? Quelles sont les dimensions et quelles sont les portées de la prédication de la croix? Première chose, c'est que cette prédication va au-delà de la description d'un simple supplice. Il faut que l'on pénètre dans une véritable compréhension spirituelle. On l'a chanté ce matin, ouvre les yeux de notre cœur. Je le dis avec énormément de sincérité. On en a tous besoin pour comprendre un petit peu ce que la croix revêt. Que l'on soit converti depuis 6 ans, 12 ans, 20 ans, 40 ans, ou pas converti du tout, que nous devons prier afin que le Saint-Esprit nous fasse peut-être connaître à nouveau la croix, ou nous la fasse connaître sous un angle différent. Connaître la croix, ce n'est pas la connaître sur un plan intellectuel, mais c'est la connaître sur un point de vue spirituel. Parce que la croix, premièrement, nous prouve l'amour de Dieu. Dans ta vie, tu dis peut-être, qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? Il te semble que Dieu ne fait rien pour toi. Il te semble que Dieu t'ignore totalement et que tu es en train de te débattre dans tes problèmes, que tu es en train de te débattre dans tes difficultés et que tu es seul. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? Moi qui suis fidèle, qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? Moi qui ai une moralité, qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? Moi qui marche d'une manière correcte, qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? Moi qui viens même aux réunions de prière le jeudi soir, qu'est-ce que Dieu fait pour moi ? On l'a lu tout à l'heure. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Trois mots dans ce verset que je souhaiterais retenir. Prouve. Je le dis souvent, mais l'amour, ça se prouve. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » et puis le piétiner. C'est pas possible. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » et être indifférent. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est totalement incohérent. Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils unique. Lorsque nous étions encore des pécheurs, cet amour s'est exercé non pas lorsque nous étions bien, mais alors que nous étions encore. Nous n'étions même pas nés. Que cet amour s'exerçait. Est-ce que vous seriez prêt à exercer votre amour pour vos arrière, 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 petits-enfants ? On ouvre éventuellement un compte épargne à nos arrière, petits-enfants. Why not ? Mais Dieu, lui, il a ouvert un compte d'épargne amour pour ses arrière, arrière. Enfin bref, vous avez compris. Il a prouvé son amour. Et même, et ce n'est pas le cas, si Dieu ne s'occupait plus de nous aujourd'hui, le compte épargne d'amour qu'il nous a ouvert il y a 21 siècles suffirait à combler nos cœurs et à combler nos vies, alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu a prouvé son amour. Christ est mort pour nous. Et ce « est », il est présent. Et moi, ce que j'aime dans la croix, c'est qu'elle a beau être plantée et avoir été déracinée du mont Golgotha, elle demeure toujours. Et son œuvre demeure toujours. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. C'est comme si la croix était toujours plantée. Et en cela, il n'y a plus de culpabilité pour le peuple de Dieu. Et c'est le deuxième aspect. C'est que, à la croix, la provision pour satisfaire la justice de Dieu a été accomplie. Romains 8, 34. C'est Dieu qui justifie. Alors qui les condamnera ? Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui les condamnera ? Ce qui est fabuleux avec Jésus, c'est que non seulement nous sommes pardonnés de nos péchés, mais en plus, nous sommes justifiés. Vous connaissez la distinction ? Parce que nous, bien souvent, on l'englobe sous un terme générique. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. D'accord. Je prends un exemple que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Imaginons que Naomi me mette une claque. Ce dont elle meurt d'envie d'ailleurs. Mais elle se retient. En bon chrétien et en bon pasteur, je veux lui pardonner. Mais à 80 ans, je m'en souviendrai toujours. Même si la trace est effacée, même si on s'est réconcilié et que, eh bien, je fais tout mon possible pour l'aimer. Et Dieu sait qu'il faut beaucoup d'amour et beaucoup de grâce. Son papier rigole. Mais Jésus fait beaucoup plus que ça, au travers de son œuvre. C'est que non seulement, aux yeux de Dieu, nous sommes pardonnés, mais nous sommes justifiés. C'est-à-dire que dans le cœur de Dieu, il dit de nous, ils ne sont plus coupables, ils sont justes, j'ai tout oublié. Nous ne pouvons pas, ou difficilement, oublier les torts qu'on nous a faits. Même si on vit avec et la cicatrice est passée. La blessure est fermée, la cicatrice est passée. Dieu, lui, l'oublie. Quelle différence. Nous sommes déclarés justes alors que nous sommes des coupables. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre que Jésus fait. Tes péchés d'il y a 40 ans dont tu te souviens encore. Tu sais, ceux qui te reviennent dans tes nuits, ce qu'une parole maladroite peut ressusciter à nouveau. Tu sais, tes erreurs, tes péchés. Dieu ne les a pas simplement pardonnés. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Et ça, c'est l'expiation. Troisième axe de la croix, bien sûr, c'est de recevoir le pardon de nos péchés. Hébreux 9, 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que quelqu'un me paye. Il fallait que le sang coule, et coule une bonne fois pour toutes. Et c'est celui de Jésus, eh bien, qui a coulé. Quatrième axe de la croix a été dressée. Et Jésus y a été cloué, afin que la défaite du diable soit pleine et soit entière. Un jeune homme me disait, il y a peu de temps, c'est bizarre, mais le diable, avant de lire un livre, et puis la parole de Dieu, j'y croyais pas. Je croyais en Dieu, mais je croyais pas au diable. Vous savez qu'il existe ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsqu'une femme était lapidée pour adultère, elle était mise à l'époque publiquement. C'était fait publiquement, devant tous. Son honneur, ou son déshonneur plutôt, était étalé et là la sanction tombait. Et lorsqu'il est noté le terme dépouillé, c'est le même terme qui est utilisé pour la lapidation. C'est-à-dire que Jésus nous donne non seulement la victoire, mais en plus, il a déshonoré, il a éclairé complètement par son œuvre les œuvres de l'ennemi de nos âmes. Ce qui signifie que, eh bien, lorsque on est lié, ce qui signifie que si, eh bien, pour une raison ou pour une autre, en nous, il y a, eh bien, des puissances mauvaises. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas à Jésus. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas convertis. Un chrétien ne peut pas être possédé. Mais, si parmi nous, un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme, sait et a conscience, après avoir touché à de l'occultisme, après avoir touché à de la sorcellerie, après avoir touché à la magie, et qu'il se rend compte bien que sa maison, les volets claquent de manière étrange, que les portes grincent de manière étrange, alors qu'il sache qu'en Jésus, il y a la délivrance. Et que Jésus, sur la croix du calvaire, a dépouillé le diable de toute prérogative sur les vies de ceux qui leur appartiennent. Je me souviens de cette gamine de 12 ans ou 13 ans qui est venue un jour dans le bureau d'un de mes formateurs. Elle avait la trace d'une corde autour de son cou. Il y a des choses qui ne me font pas rire, personnellement. Une gamine de 13 ans qui suicide, ça ne me fait pas rire du tout. Qui tente de suicider, ça ne me fait pas rire. Et là, c'était quelque chose de récurrent. Cette enfant avait été consacrée au diable étant petite. On a prié pour elle. Instantanément, les choses se sont réglées. Instantanément, les choses se sont réglées. Cet enfant a été délivré. Sixième point, la croix, c'est l'accomplissement des prophéties, des promesses qui ont été faites aux prophètes dans l'Ancien Testament. 1 Pierre chapitre 1, verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Elle est belle cette fin de phrase. Les anges désirent plonger leur regard. Vous imaginez ? Les anges, ils contemplent la gloire de Dieu. Ils sont au pied du trône. Et pourtant, ils désirent plonger leur regard dans les promesses qui ont été faites et qui se sont accomplies. Et nous, on les a ? Les anges désirent y plonger leur regard ? Désirent plonger leur regard dans la grâce, dans l'œuvre de Jésus ? Désirent plonger leur regard dans ces choses-là ? Nous, on peut la vivre. C'est une réalité extraordinaire. Septièmement, la croix nous parle des choses accomplies définitivement. Alors que Jésus est sur la croix, eh bien, il va prendre du vinaigre. Enfin, du moins, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est fait. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. L'œuvre a été complète. Qu'est-ce que n'est pas la croix ? Souvent, on a une expression qu'on utilise, c'est « je porte ma croix ». Je porte ma croix. Deux idées auxquelles il faut tordre le cou. Porter sa croix, eh bien, ce n'est pas porter nos souffrances, ce n'est pas porter nos maladies. Parce que ça, ce sont des choses qui sont inhérentes, eh bien, à la condition d'hommes et de femmes vivant sur cette terre. Si les souffrances en question ne sont pas inhérentes à la vie de disciple, on ne peut pas dire que l'on porte notre croix. Mon frère, tu ne peux pas dire qu'en vivant avec ta femme, tu portes ta croix. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein ? Mais tu peux dire en revanche qu'elle te sanctifie. Hein ? Qu'elle est ton écharde, etc. Ça, c'est biblique et ça, c'est purement théologique. Il n'y a aucun problème. De la même manière, on ne peut pas dire que les persécutions, on ne peut pas dire que, eh bien, que la croix n'est pas, qu'il ne faut pas se tromper, du moins dans la conception qu'on a de la persécution. Hein ? On sait que 1 Pierre chapitre 4, verset 15, nous dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Porter sa croix, ce n'est pas souffrir pour les conséquences de nos actes. Et porter sa croix, c'est souffrir à cause du nom de Jésus. Ça, c'était de manière à avoir une bonne conception de ce que nous disons. Et pour introduire la deuxième partie, qui s'intitulera ainsi, qu'est-ce que la croix aujourd'hui dans notre vie ? Quelles sont ses conséquences en tant que serviteur ? Alors, pour conclure, la croix est debout. On a vu ce qu'elle pouvait nous apporter, la justification au-delà du pardon. On a vu ce qu'elle pouvait nous apporter, la délivrance et le fait que le diable, eh bien, a été démis de son autorité. Aujourd'hui, nous pouvons lui résister. Si nous nous soumettons à Dieu, nous pouvons lui résister et alors il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Nous savons que eh bien, nous avons à la croix la possibilité de recevoir le pardon de nos péchés. Nous savons que nous avons un privilège extraordinaire. Et nous savons que cette croix et que son œuvre est toujours debout. Et qu'elle est toujours d'actualité. Fait du bien, non ? Alors, eh bien, on va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux et puis on va prier. On va prier le Seigneur. Et durant ce temps, on va rester quelques secondes dans le silence. Et puis, on laisse notre cœur s'imprégner, eh bien, de la grâce de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, grave la croix dans mon cœur. Grave la croix dans ma vie. S'il te plaît, fais-moi du bien.